Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Roger Vercel, Capitaine Conan. Sous un bec de gaz, Conan regarda son bracelet montre. Oh bon Dieu, -10 ! Et nous étions au bout de la Calea Victoria, au bord de la chaussée Kisilev, cette large avenue où Bucarest déborde brusquement en parc et en jardin. Entre ces Champs-Élysées roumains et la popote, il y avait 1 kilomètre de Calea, bourré de promeneurs, 10 minutes de petits tramways cahotant le long des boulevards Carole et Elisabeth, et enfin le jardin du Sismigiu, peuplé d'amants en lente promenade. Au total, une demi-heure. « Le vieux va râler, » dit Conan. Nous savions d'ailleurs exactement comment ça se passerait. Nous entrerions au dessert, cuillerée de marmelade, dans la vaste salle éclairée par 4 bougies, une salle plus nue et plus froide qu'un réfectoire de cagne, et le commandant Bouvier, sans nous regarder, nous dirait « Mes chers camarades, si nos heures ne vous conviennent pas, vous voudrez bien nous donner les vôtres. Nous nous ferons un plaisir et un devoir de nous y conformer. » La première fois, c'était drôle. Et l'on n'avait aucun mal à s'asseoir en souriant le plus finement possible de l'air du monsieur qui en savoure une excellente. Au second retard, le commandant infligeait la même formule avec une froideur sèche, une lenteur savante qui appuyait le blâme. Et le sourire de la victime jaunissait, un sourire sournoisement guetté par les convives. La troisième fois, cela éclatait rageusement. C'était une mise en demeure exaspérée, cassante, décochée avec des mâchoires tremblantes, des gros yeux. Après cela, on n'arrivait plus jamais en retard. On préférait dîner en ville ou plutôt en faire le simulacre, car les concombres que les restaurants roumains servaient par miracle en toute saison, les viandes creuses, les spécimens réduits de charcuterie, ces dînettes à 100 lei où le garçon seul était épais et consistant nous avaient dès longtemps inspiré la méfiance des bodegas les mieux achalandés. Pourtant, ce retard-là serait le 4e de la semaine et il était difficile de prévoir les excès où se porterait le vieux devant ses récidives insolentes. Je rattrapai donc Conan qui fonçait déjà tête basse dans la foule sombre du trottoir et je lui proposai un restaurant nouveau dont on disait quelques biens. Conan me regarda, les paupières presque rejointes, un mince fil de regard brillant dans la face ronde et rougeaude, puis il haussa les épaules. Plus de rond. C'était la fin du mois, en effet. J'essayais cependant, derrière son dos, de le convaincre. Si bas que fussent les fonds, quelques croissants et un café crème vaudraient mieux que le pain amer de la popote. Mais il était gros mangeur et dédaigna de me répondre. Son allure balancée, paysanne, distribuait des coups d'épaule à droite et à gauche, m'ouvrait un large passage et je le suivais, très inquiet. « Messieurs, le dîner à la popote fait partie du service !» C'était dit sans colère, gravement. Et les camarades qui s'expliquaient avec du coriace fromage de buffle ne levèrent pas le nez de leur assiette d'aluminium. Conan me lança un regard surpris et joyeux. Mais en prenant ma serviette, je trouvai dessous dans l'assiette une feuille de bloc-notes. Le lieutenant Norbert gardera les arrêts simples pendant 3 jours. Motif : inexactitude dans le service. À l'autre bout de la table, Conan s'absorbait comme moi dans la lecture du même avis laconique. Il admirait comme moi qu'il fût timbré du cachet bleu-gras du bataillon, ce qui ne laissait aucun doute sur sa préméditation. Le vieux avait fait établir le poulet sitôt après notre 3e retard, et il le gardait bien assuré d'en avoir l'emploi. Conan, très rouge, mangeait sa soupe froide, violemment. À cet instant, le cuisinier déposa sur la table 3 bouteilles de champagne. C'était l'indice d'une aubaine pour quelqu'un d'entre nous. Aussi, j'interrogeais des yeux, assez maussadement, les figures des convives. Je rencontrai le regard de Desèves, ce regard fixe, pénétrant, que je lui avais vu chaque fois qu'il étudiait sur un visage l'effet de ses paroles. « C'est pour moi ça, Norbert, me dit-il, en détordant la boucle du capuchon doré. Je passe au bureau économique de l'armée. » Ainsi, il me l'annonçait, après coup, comme aux autres, devant tous. Une petite vengeance, évidemment. Du dépit, parce que depuis notre arrivée à Bucarest, je ne m'étais peut-être pas laissé suffisamment à son gré, accaparé par lui. Avant de partir, il me rejetait dans le rang, à son aise. Tous mes compliments. Je réussis à donner à ces mots l'accent de banale cordialité que je cherchais, mais j'enrageais quand je me sentis monter aux joues une rougeur qui marquait le coup. Étais-je pourtant assez à l'épreuve de ces ruptures ? Ces relations-là finissaient comme tant de relations de guerre par une mutation. Un camarade changeait de corps, on le regrettait hâtivement, on faisait tout si vite. On échangeait quelques lettres, puis chacun abandonnait l'autre au passé déjà tellement encombré de visages. C'est qu'on était entraîné au renoncement et que le présent seul comptait avec ses anxiétés, ses menaces. Desèves, ce ne serait bientôt qu'un nom de plus à retenir, puis à oublier. Dommage. Cependant, le commandant levait son verre pétillant afin de porter le toast de rigueur. « Mon cher Desèves, à vos succès d'économiste, vous allez conduire les Roumains aux mamelles de la France victorieuse. Ne les laissez peloter qu'avec discrétion. » Ce badinage annonçait que le chef de bataillon Bouvier allait avoir de l'esprit. Ces plaisanteries ne se renouvelaient guère, leur ordre même semblait immuable. C'était d'abord des parodies littéraires, puis venaient des histoires grasses et fatiguées, enfin de ces inversions de syllabes qui donnent aux mots un sens imprévu et divertissant. Il faudrait une fois de plus rire au lapsus de ce camarade qui, au lieu de « sonner trompette », avait commandé « tromper sonnette ». Mais rire surtout quand des phrases innocentes telles que « le vent siffle dans la rue du quai » en seraient venues au prix d'ingénieuses transpositions à braver une honnêteté moyenne. J'attendais ce cortège et par représailles j'avais résolu de rester sévère. Cela me fut épargné. Norbert, me dit aimablement le commandant, on m'a demandé tantôt un avocat pour la prochaine session du conseil de guerre. Il fallait quelqu'un qui fît honneur au bataillon. Je vous ai désigné. Vous êtes étudiant en lettres. Vous nous saupoudrerez ça de sel attique. C'était une corvée supplémentaire qui allait me prendre pendant 15 jours le plus clair de mes loisirs. Des loisirs que je consacrais au cheval d'un camarade artilleur. Or, j'étais déjà tombé 4 fois, je commençais à pouvoir m'asseoir sur une chaise sans trop grimacer. Il faudrait perdre tout le bénéfice de cet entraînement. Les camarades rigolaient bassement et comme s'il eût voulu m'enlever tout orgueil et se faire pardonner de m'avoir distingué, le commandant exposa ses principes en matière de justice militaire. Il la concevait comme une douane. On déclarait la denrée, abandon de poste, outrage envers un supérieur, vol des faits militaires, on se reportait au tarif et on percevait. « Mon cher camarade, me dit-il avec cette politesse qui était chez lui une forme de l'humour, Dieu me garde de sous-estimer votre rôle de défenseur, mais permettez-moi de vous dire que je n'arrive pas à en réaliser l'utilité. De deux choses l'une, la faute est nette et ça vaut tant. Ou alors la faute n'est pas absolument prouvée, ça arrive, je vous le concède. » Les mains qui déjà dépliaient les serviettes s'arrêtèrent, attentives, devant l'imprévu de cette complication. Le commandant posa les avant-bras sur la table comme des arguments quatre fois soulignés et prononça « Eh bien, même dans ce cas, ça vaut tant pour le principe. » Et le principe, c'est qu'un préventionnaire n'est jamais un bon soldat. S'il a été soupçonné, c'est qu'il méritait de l'être. À supposer, même que vous frappiez à faux, ce ne sera qu'un virement de fond. S'il n'est pas coupable de cela, il est coupable d'autre chose pour laquelle il n'a pas payé. Ce fut un beau ourvari. Il y avait là, outre de Sèvres, Conan et moi, deux capitaines de l'active, un voyageur de commerce, un vague ingénieur, un courtier en grain, le fils d'un gros fermier normand, enfin un négociant en alimentation que je soupçonnais fort d'être bouché dans le civil depuis le jour où il avait imprudemment diagnostiqué dans un plat de la culotte de veau. Tous, sauf les capitaines et de Sèvres, qui pensaient visiblement à autre chose, nous protestions. Les arguments se croisaient. Les convives du bout de la table se couchaient dessus pour envoyer les leurs. Le commandant, lui, souriait goguenard, et quand le calme se fut un peu rétabli, ce n'est pas vrai. Eh bien, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais je parierais 1 000 francs contre un sou que ceux qui crient le plus haut se sont mis pas une fois. Vous entendez, mais bien 10, et tous dans un cas de conseil de guerre. Sur le front français, vous alliez en permission. Vous rabotiez 2 jours, 3 jours, désertion. Et au dépôt, personne n'a usé de permission maquillée avec le cachet décalqué au papier carbone, contrefaçon de sceau, réclusion à 5 à 10 ans. Aucun de ces messieurs n'a fait retailler des capotes. Personne n'a emporté d'OF pour pêcher à la mélinite dans les étangs ou les rivières, montrez vos briquets. Tous fabriqués avec des cartouches. Ça s'appelle, si je ne m'abuse, vol de munitions et d'effets appartenant à l'État, et ça vaut 5 à 20 ans de travaux forcés. Et quand Conan a demandé à un commandant d'artillerie qui lui avait tiré dessus, « Est-ce de Fontainebleau ou de Bicêtre que vous sortez ?» Ce n'était pas des outrages à un supérieur et à l'occasion du service, ça, 5 à 10 ans de travaux publics, Conan. Il riait et triomphait modeste. C'était vrai, nous avions commis tout cela et bien d'autres crimes encore, des abandons de poste quand nous allions intempestivement au feuillet, des rébellions envers la force armée pour avoir chargé des gendarmes dans les gares de triage et des sommeils de factionnaires, et des destructions de matériel de guerre pour tout le fil téléphonique dont nos boutons étaient cousus, et des refus d'obéissance et des violations de consignes en présence de l'ennemi. Maintes fois, il aurait suffi de la mauvaise humeur ou de l'antipathie d'un gradé, moins encore de ce besoin d'exemple dont la nécessité se faisait si fréquemment sentir pour qu'une peccadille courante reçût un nom terrible qui lui fût allé comme un gant. Tout était affaire d'appréciation. On haussait les épaules 99 fois. La 100e, un visage brusquement inexorable, vous signifiait votre crime, et l'on vous passait au tourniquet, sans que vous ayez pu nier le fait, discuter sa qualification, son châtiment étiqueté d'avance.
Au Critérion Bar, après la débine, je faisais la barmède pour les Norvégiens. Les gars des cargos m'appelaient leur frangine. Je gagnais 10 bob en un tournement. Après le business, sur le quai des Brumes et la rue Grand Pont, c'était le Chabanais. On m'appelait Nelly et le passé se rallume. Afin que je puisse distinguer tes traits. venait me chercher dans la lumière blême d'un sale petit jour, sans sèche et sans blé. On rentrait se coucher le ventre en carême dans ma chambre meublée, rue des Cordeliers. Je pouvais dormir en me fichant de l'ardoise, ma bouche entrouverte souriait au plaisir. La vie n'est très belle que pour les bourgeoises. Le meilleur du lot, c'est pour le souvenir. Quand tu t'es taillé de Rouen et de ses fêtes pour jouer au griffon dans le camp de Mourmelon, je t'ai dit adieu en tournant la tête et je t'ai donné ma bénédiction. On a pris pour saladaire des dernières cuites au bar Nielsen, rue de la Vicomté. Puis, fil en aiguille, fallut faire la guerre, une fleur au fusil, des ampoules aux pieds. J'ai dans la mémoire une chanson qui bouge, le nom des patelins où t'as dérouillé. Carency, Ablin, le cabaret rouge, la route de Bapaume où tu es resté. J'ai bien fait d'éteindre la lanterne magique qui déroulait le fil de tes 22 ans. Quand je m'appelais Nelly, comme sur l'ancien disque d'avant ton départ, pour le régiment.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Capitaine Conan, Roger Vercel. Le commandant ne manquait guère de demander son avis à Desèves. Desèves était de l'active, et Bouvier en était fier. Le plus distingué de ses officiers était de carrière, il resterait à l'armée. Nous, Conan excepté peut-être, nous cachions mal notre hâte de rompre au plus tôt avec elle, et le commandant sentait ce dédain impatient. L'armée, devenue brusquement inutile, passait de mode. On regardait volontiers comme des attardés ou des incapables ceux qui refusaient d'en sortir. Ce mépris, notre indiscrétion, à nous les jeunes, le marquait assez cruellement. Qu'un gentilhomme comme Desèves restât soldat par choix, c'était pour notre chef de bataillon une revanche dont il savait gré au lieutenant. Oui, qu'en pensez-vous, Desèves ? Desèves retira sa cigarette des lèvres et répondit : Je suis absolument de votre avis, mon commandant. J'estime même que ceux qui ont été frappés pour l'exemple n'ont point été frappés à faux, loin de là. Conan gronda : Voyez, bouc émissaire, on te charge de toutes les saletés des autres, va crever, pendant que tu y es fusillant 3 ou 4 pour donner du cœur au reste. Desèves haussa les épaules. Tu sais pourtant mieux que personne qu'on n'a pas toujours le choix des armes. Le poteau est une arme comme le couteau de tes nettoyeurs. Si on ne veut pas s'en servir, qu'on ne fasse pas la guerre. On ne la fera plus. Le lieutenant voyageur de commerce, un bon gros à grosses lèvres gourmandes, le promit avec tant de conviction que tous, détendus, se mirent à rire. « Cette forte parole clôt les débats, » déclara le commandant. Il se leva car il se couchait tôt et seul. Les deux capitaines, celui de la première, un grand chauve à l'œil lent, au nez bulbeux, et celui de la troisième, un ancien adjudant de Tringlot, congestionné, s'était levé en même temps. « Desèves, » dit le commandant, si je ne craignais de vous enlever à nos 5 camarades. Nous étions 7, mais c'était une façon délicate de nous rappeler à Conan et à moi que nous nous trouvions hors de cause. Ces camarades avec qui vous désirez peut-être fêter votre entrée chez les Huiles Lourdes, je vous aurais prié de m'accompagner jusqu'au bureau afin d'arrêter les comptes de votre compagnie. N'ayez aucun scrupule, mon commandant, j'allais rentrer, je vous accompagne. J'ai moins de scrupules, assura le commandant Bouvier, parce que je vous sais sage, comme toutes les icônes de ce beau pays. Messieurs, en me serrant la main, De Sèvres me glissa. Je n'ai su mon affectation que ce soir, j'en ai été le premier surpris. Je suis allé chez vous, vous n'y étiez pas. Je vous reverrai demain. Quand la porte se fut refermée, Conan murmura. Les gars qui tomberont sur le vieux quand il sera juge au falot. Puis cramoisi. Eh bien, mes types, moi, je les ai pris tant que j'ai pu chez les préventionnaires. Et pas des préventionnaires pour des conneries, comme il en alignait tout à l'heure. Il n'y avait que là qu'on trouvait des types à la redresse. Et moi non plus, je le connais pas depuis longtemps, le vieux, mais je parierais ces 1000 francs contre mon sou que s'il avait fallu qu'ils aillent où ils allaient, ils auraient été obligés de l'y porter à bras, les gars, parce qu'il aurait eu des pattes en flanelle. Cette déclaration tomba dans l'indifférence générale. Tous étaient pressés de sortir. La grande ville, la nuit, les cinémas dont la sonnette grelottait dans l'air froid, les dancings, salons roses, palais des glaces, Maxime, les boulevards avec la promenade quêteuse des femmes aux yeux sombres. Ils venaient de dîner en service, maigrement. Sitôt dehors, ils allaient redevenir les vainqueurs adulés qui accaparaient les regards et les sourires. Leur portefeuille était bourré d'invitations et d'argent. Les plus vulgaires hantaient les salons, avaient appris à baiser les doigts des dames et se glorifiaient de connaître désormais le goût du caviar. Tous, après une vieillesse de 4 ans, s'émerveillaient de se retrouver jeunes, de sentir un tel appétit de jouissance. Certains qui s'étaient défendus contre leurs désirs pendant des semaines et qui, parce qu'ils se souvenaient trop de la guerre ou redoutaient la paix, s'isolaient farouchement dans les épaisses maisons feutrées de tapis où ils avaient leur domicile somptueux, ceux-là même, un à un, cédaient à l'appel de la nuit roumaine. 3 jours d'arrêt, 3 soirées à bâiller auprès du grand poêle de faïence. Ce serait dur. Pour Conan surtout. Il passait toutes ses nuits dans les dancings, et bien que les champagnes roumains soient tout simplement des sodas à étiquette d'or, et l'eau de vie nationale un grog froid et sans sucre, il buvait avec tant de régularité qu'il arrivait à être ivre à l'aube. Cela lui permettait de se battre avec les policiers qu'il allait mélancoliquement injurier sur la place du Palais-Royal. En partant, quelqu'un lui demanda « Tu es de service demain ?»«
Oui.
Corvée de bois. » C'était encore un de nos étonnements, cette corvée de bois. Conan l'assurait avec ses mulets de la compagnie de mitrailleuses, des mulets qu'il ramenait toujours chargés à crever alors que tout le monde savait pertinemment qu'il ne restait plus depuis longtemps une seule trique dans les bois achetés par l'intendance. Quand on lui demandait comment il s'en procurait, il répondait laconiquement « Je me démerde ». Il s'en allait à son tour vers la porte. Je l'arrêtai au passage. « Où vas-tu ? » Il hésita. « Ah, ce soir, je ne sais pas trop, au Salon Rose ou au Palais de Glace. Et tes arrêts ?» Il jura effroyablement en s'empêtrant dans ses blasphèmes. La colère l'étouffait. Il criait qu'il les ferait là-dessus, tiens, ses arrêts, et que le palier-pied lui servirait à un usage précis, et que le vieux pouvait toujours faire venir un contre-appel à son cordon de sonnette. Seulement, ajouta-t-il en plissant les paupières, même si je ne les fais pas, je lui tiens compte de l'intention. Je savais qu'il avait repéré l'avant-veille dans un beuglant une grande fille canaille et tendre qui s'appelait Fréhel. Une payse à lui qui y chantait d'une voix cassée des chansons ingénues de filles de souteneurs. Elle l'avait conquis. La crème des filles, m'avait-il confié, et avec ça, un côté vache. Mais il n'y songeait pas ce soir, il voulait sortir simplement parce qu'il y avait là un risque, et que le risque était trop rare depuis l'armistice pour qu'il laissât passer celui-là. Il me mit brusquement au pied du mur. « Et toi, tu en es ?» Providentiel, mon ordonnance qui attendait la sortie apparut dans l'embrasure de la porte, salua et me remit un volumineux paquet. « Mon lieutenant, c'est de la part du commissaire rapporteur. » Je jetai un coup d'œil sur l'envoi, il y avait inscrit au crayon rouge « Dossier en communication ». Je tenais ma réponse. « Non, il faut que je voie ça, ça doit être pressé pour qu'on me l'envoie ce soir. » Conan restait fermement planté sur ses jambes, immobile, les yeux papillotants comme un taureau qui aurait foncé dans le vide. Puis il haussa les épaules d'un air de pitié. « Faut que tu vois, mais que tu vois quoi ? Tu les connais pas, ces gars-là. Pour en causer, faudrait d'abord que tu saches ce que c'est qu'une frappe. Et dans les corps de troupes, personne ne le sait, t'entends ? Alors, dans tes plaidoiries, t'auras tout du premier communion. Sûr que tu vas les faire paumer. » Je lui tendis le paquet. « Puisque toi, t'es si renseigné, mon vieux !» Mais il refusa et dit avec sincérité « Moi, je bafouillerai. Et puis j'engueulerai les juges. Alors on me flanquerait à la porte, non. Mais il y a des choses qu'il faut que tu saches. Amène-toi, on va voir ça ensemble. » Ce fut au tour des autres de demander « Alors, tu ne viens pas ?» Il dédaigna de répondre et m'entraîna. Il neigeait. Et le crivette nous taillada le visage dès les seuils. Mais nous avions touché des cacioulas, ces bonnets cylindriques de faux astrakhan, auxquels était cousu un petit drapeau tricolore. Cela se rabattait sur les oreilles, comportait une mentonnière compliquée, et quand c'était mis au point, grâce à un système savant de crochets et d'agrafes, cela ne laissait que les yeux seuls à nu et nous faisait aux hommes et à nous d'étonnantes faces de Touareg. Le long des rues désertes, chichement éclairées, nous allions courbés sous les rafales et Conan, dont la voix m'arrivait mal, étouffée par le bâillon de laine, Conan m'exposait un plan de défense générale et hautain. Il fallait, selon lui, assurer aux juges que les préventionnaires étaient des soldats d'élite, des audacieux, entraînés pendant des années aux exploits violents et que l'armistice avait déconcerté. Ils avaient pris l'habitude de se battre, ça leur manquait. C'étaient des héros sans emploi, les plus tristes et les plus à plaindre, des chômeurs. Et ils auraient besoin de pallier de longues transitions avant que s'éteignent les appétits de combat qu'on avait surexcités en eux. Il s'arrêta et me regarda les yeux mi-clos. Moi, mon vieux, si je te disais que j'en ai le cafard parfois de ne plus pouvoir me tabasser, il n'y a pas. Un coup de main bien monté, ça valait. La huée d'un sifflet strident l'interrompit. Debout au centre de la place, sous un réverbère, un policier roumain enveloppé dans une ample capote de bure, un petit chapeau pointu de fourrure bien enfoncé sous les yeux, nous salua de loin quand il s'aperçut que nous le regardions. De la rue voisine, un coup de sifflet répondit au sien, puis d'autres qui s'éloignaient. La nuit, ils enveloppaient ainsi la ville d'un réseau de bruits aigus et rassurants. Il était urgent de repartir, je l'entraînais chez moi. Sturbey Voda, le soba, avait gardé la chambre tiède. Le lit ouvert montrait des draps fins et brodés, une cuillerée de confiture m'attendait avec un verre d'eau fraîche. L'hospitalité roumaine n'oubliait jamais ses complaisances. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.